tout lieu, il y a un protocole. Je vais demander à tout le monde dans cette salle de se lever. Si vous êtes malade, levez-vous au nom de Jésus. Nous allons acclamer le roi des rois. Je ne veux pas juste faire une acclamation supplémentaire, mais quand vous allez écouter la parole, vous allez comprendre pourquoi. Et simplement dire au Seigneur, nous sommes disposés pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois?
Ibriene sote balando ye koye manda reto boboyo nakabaya nakomo semeneke. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de puissance, nous t'appelons en ces lieux, Seigneur. Sans toi, l'homme n'est rien, mais tu te manifestes parce que tu nous aimes. Nous t'accueillons en ces lieux. Merci, Seigneur. Merci, je vous prie de vous asseoir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais accomplir certains devoirs qui sont nécessaires. Je voudrais commencer par remercier l'Assemblée qui m'a invité, spécialement le corps pastoral, révérend Jean-Marc et pasteur Magdala, et elle dit Amen. Et elle dit Amen. Je voudrais remercier toute l'Église de me faire confiance de la parole. S'il y a une chose que j'ai établie depuis des années, c'est que je ne me fie jamais au nombre pour faire mon travail. Je prêche de la même manière devant 5 personnes comme devant 10 000 personnes. Parce que Dieu n'a pas tenu compte que la terre était informe et vide pour créer une nouvelle création. Je serai assez rapide ce soir afin de pouvoir libérer tout le monde à temps. Je voudrais aussi remercier la chorale et le ministère des hommes de la communauté évangélique de Pentecôte qui se joignent à nous ce soir, s'ils peuvent se lever. Merci beaucoup. Et s'ils peuvent s'asseoir. Et j'aimerais souligner la présence du responsable des hommes qui est ancien à l'Assemblée, qui a prêché ce matin mais qui a trouvé bon quand même de venir ce soir. L'ancien faucon, s'il peut se lever, nous allons le saluer. Alors, imaginez-vous, moi je ne suis pas pressé ce matin, je me tiens devant vous, je suis déjà fatigué, mais lui il a prêché ce matin et puis il est là ce soir. Alléluia. Nous allons, si vous le voulez bien, aller dans la parole de Dieu ce soir et pouvoir enseigner. Je vais demander à mon épouse de vouloir prendre le micro, elle fera la lecture pour nous. Je ne lui ai pas dit, puis ça vient de me venir. Voilà, si tu peux juste te mettre là. Après ça, quelqu'un t'aidera à le mettre sur mute. Nous allons lire 2 textes ce soir qui nous serviront de résumé de ce que nous avons lu, enseigné depuis le vendredi. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce que je vous enseigne, je ne l'ai jamais enseigné quelque part. Donc, vous êtes en même temps les récipiendaires. Vous êtes en même temps, si je dirais, les récipiendaires et puis les cobayes. Oh, donc on essaye sur vous certaines choses pour dire, oh ça marche, ça c'est bon, on le garde pour la prochaine fois. Et puis c'est ça, j'aimerais prêcher ce soir sur la thématique 5 champs de bataille. 5 champs de bataille, et j'étais béni parce que ce matin vous avez appris 4 armes, c'est ça? Mais regardez comment le Saint-Esprit fonctionne parce qu'on ne sait jamais parler. Et je ne sais pas qui a prêché ce matin, mais depuis le début de la semaine, le Seigneur me dit de prêcher sur 5 champs de bataille pour survivre. Avoir l'appel pour le trône est une bonne chose. Être un roi sans trône, c'est une bonne chose. Arriver sur le trône est une bonne chose. Mais survivre au trône et mourir dans son vieil âge, toujours assis sur le trône, est une chose merveilleuse. Nous allons faire 2 lectures ce soir. La première lecture sera dans le livre de 1 Samuel, je le prends en même temps que vous parce que j'ai entrecoupé la lecture pour nous faciliter, chapitre 17, et nous allons lire ce soir du verset 12. Excusez-moi, je suis dans le mauvais Voilà. Nous allons lire ce soir du verset 40, pardon. Nous allons lire ce soir du verset 40 et nous allons aller jusqu'au verset 50. Donc 10 versets, 1 Samuel 17, chapitre 17, le verset 40 au verset 50.
Je lis la parole de Dieu. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de bessasse, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina, et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança. « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?»
Mm-hmm.
Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, mm-hmm. la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Mm-hmm. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front, la pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement.
Amen. Le deuxième texte, nous allons juste pour gain de temps, merci, nous allons nous arrêter là. Mais c'est le texte où David dit, « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Merci beaucoup. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Nous prions que le Saint-Esprit soit en contrôle pour que ça ne soit pas la sagesse de l'homme, ni l'éloquence de l'homme, mais le Saint-Esprit qui gouverne toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis très heureux de partager la parole avec vous ce soir. Depuis le vendredi, nous avons commencé à enseigner la parole de Dieu. Et juste pour ceux qui n'étaient pas là, faire un rapide résumé de ce que nous avons vu. Avez-vous été béni? Avez-vous été béni? Vendredi, nous avons partagé sur la thématique principale qui est un homme selon le cœur de Dieu. Le sous-thème que nous avons utilisé pour l'enseignement de vendredi, nous avons parlé de le Dieu des 100 noms. 5 qualités qui ont qualifié David pour le trône. Ensuite, hier, nous avons longuement parlé sur le roi sans trône. 5 disciplines ou 5 écoles qui garantissent à David le trône. Ce soir, nous voulons aller beaucoup plus loin et parler des 5 champs de bataille. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, j'avais 13 ans et c'était un peu une folie pour moi de rentrer dans le bureau de mon père et de lui dire « Je sens que le Seigneur m'appelle au ministère à le servir » parce que je ne savais pas c'était quoi le ministère vraiment. Et il m'a regardé un peu bizarrement en disant « Est-ce que ça va bien ? Est-ce que ça va bien ? Est-ce que tout va bien ?» Et avec les années, le Seigneur a commencé à confirmer le ministère, à ajouter des choses dans ma vie que je n'avais pas. Et j'avais l'impression avec les années que les choses allaient arriver d'elles-mêmes. J'étais naïf parce que je pensais que je pouvais vivre n'importe comment et j'allais arriver au trône. J'étais un roi sans trône. Je pensais que tout le monde était gentil dans l'église et j'ai découvert que c'est pas toujours le cas. J'étais naïf et je pensais que les choses allaient arriver parce que Dieu les a dites. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu peut dire une chose, mais entre le moment où Dieu a dit et le moment où tu arrives au trône, il y a 5 champs de bataille. Et les 3 premiers champs de bataille que je vais pouvoir partager avec vous, ce sont les champs de bataille, ce sont les batailles qui précèdent le trône. Et les 2 dernières batailles que je vais partager avec vous, ce sont les batailles qui t'arrivent lorsque tu es sur le trône. Dis à quelqu'un, il y a 5 champs de bataille. J'ai besoin des gens qui sont avec moi ce soir. Dis à quelqu'un, il y a 5 champs de bataille. Nous avons vu comment Dieu, dans sa grâce, a sélectionné David. Et j'aime bien lorsqu'on parle du Congo, mon cher pays, on dit que le Congo est un scandale géologique. Et j'aimerais dire que le choix de David est un scandale en soi. Parce que David n'a rien du portrait de Saül. David est petit par rapport à Saül. Je pense que David devait avoir ma taille. Saül était grand, peut-être 1m90. C'est un homme, lorsqu'il rentre dans la salle, tu sais que cet homme-là doit être un serviteur de Dieu. Mais David n'a rien du portrait typique du serviteur de Dieu. David est un homme qui semble ordinaire, jusqu'à ce que les besoins de la cause commencent à manifester ce que Dieu a mis en lui. David était un homme qui semblait ordinaire, mais Dieu avait mis quelque chose en lui. Et Dieu choisit David, et le choix de David semble être, comme je le disais, une folie. Le choix de David semble être une folie, dans le sens que comment est-ce que Dieu peut passer de prendre un Saül grand, un Saül qui semble être le summum même de la masculinité, de la réussite. La Bible dit qu'il était beau, qu'il était grand. Et David, on dit de David, il était jeune, il était roux, il était petit, il était le dernier de sa famille. David est aux antipodes de ce qu'on espérait, de quelqu'un que Dieu va élever. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu sembles être aux antipodes de ce que Dieu est capable de choisir, mais tu es le choix de Dieu, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde aux dispositions du cœur. Dieu est capable de prendre le bâton d'Aaron qui était mort et de faire fleurir le bâton d'Aaron. Ce qui compte, c'est la touche divine sur un ministère. Ce qui compte, c'est la touche divine sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas d'où tu as été tiré, ce n'est pas ce que ton passé t'a fait, mais c'est ce que Dieu fait de toi à partir du moment où Dieu t'a mis de côté pour lui. Quelqu'un dit amen. La folie du choix de Dieu se manifeste dans la vie de David. Et cela se voit lorsque Samson va prendre une mâchoire d'âne pour aller combattre l'armée des Philistins. Comment est-ce qu'une mâchoire d'âne peut battre une armée? Le choix de Dieu est une folie. Quand nous regardons les choix de Dieu, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu choisit tel homme, pourquoi Dieu utilise telle personne. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et David se retrouve, comme je disais hier, un roi sans trône. Il a l'onction, il est appelé pour être roi, mais il n'a pas encore de trône. Mais entre le moment où Dieu l'appelle roi et le moment où il arrive au trône, il y a 3 batailles qu'il va vivre. Lorsque David va arriver au trône, il y a 2 batailles que David va expérimenter. Et je suis venu ce soir comme un thérapeute de Dieu pour vous annoncer les batailles que vous devez vivre afin d'arriver dans la plénitude de votre destinée. Je suis venu ce soir aussi pour vous dire que lorsque tu arrives au sommet, il y a aussi 2 types de batailles auxquelles tu vas faire face, et tu dois être préparé afin d'avoir la victoire. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen ce soir. L'histoire de David est une histoire bien connue de la plupart des gens ici en ce lieu. Et David a environ 17 ans lorsque, dans le premier texte que nous avons lu, David arrive au champ de bataille. Et au champ de bataille, lorsqu'il arrive, il était venu de façon ordinaire, juste pour apporter de la nourriture à ses frères et en même temps voir ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Et lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il entend Israël qui pousse des cris. Et la Bible dit qu'Israël poussait des cris de bataille. Mais en réalité, lorsque David est arrivé, il dresse un constat. Ce sont des cris dans le vide, parce qu'en réalité, il n'y a rien qui se passe. Ça ressemble à beaucoup des chrétiens aujourd'hui qui poussent beaucoup de cris dans les réunions. Mais si on dit qu'il y a un ougan, un sorcier ici, tout le monde va plier bagages rapidement et partir. Parce qu'en réalité, nous poussons des cris, mais Dieu veut que nous soyons victorieux. Et David arrive sur le champ de bataille. Et en arrivant sur le champ de bataille, la chose que nous réalisons, c'est que David, automatiquement, qui était un jeune, est plongé dans la réalité de la vie. J'aimerais vous dire que la vie est un combat. Il n'y a rien dans la vie qui vous sera donné gratuitement. Beaucoup de choses dans la vie vous seront arrachées. On vous arrachera peut-être vos voitures, on vous arrachera la santé. Parfois, il va arriver que tu vas à l'hôpital, tu n'as même pas la maladie, mais on dit, vous avez le cancer. Et toi, tu dis, j'ai un cancer. Le cancer dit, ok, je suis à toi. J'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il n'y a rien dans la vie qui vous sera donné, mais on combattra pour vous arracher la plupart des choses que vous avez, vos dons, vos potentiels. David est plongé dans une réalité, c'est que la vie est un combat. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la vie est un combat? La vie est un combat. Chaque chose, chaque ministère qui s'élève, s'élève après avoir eu la victoire sur certains combats. Chaque maison, chaque mariage qui réussit, réussit parce qu'ils ont réussi à survivre des combats. Il n'y a rien de facile. Il faut que tu t'arrêtes de suivre des hommes qui te disent que tu auras la limousine demain. Des hommes qui te disent tout le temps que tu vas réussir, que tout sera facile. J'aimerais te dire que entre le moment où Dieu prononce la parole sur ta vie et le moment où tu vois la réalisation, il y a des combats. Voilà pourquoi David dit, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, l'Éternel qui m'accorde la victoire parmi mes ennemis. David arrivera à la fin de sa vie et il va dire, cantique de David, quand l'Éternel lui délivrait de toutes ses ennemis et de toutes ses détresses. Quelqu'un dit amen. Mais voici, mes bien-aimés, David arrive sur le champ de bataille, la première réalité qu'il réalise, c'est que la vie est un combat. Et voyez-vous, c'est que pendant des années, j'ai vécu en disant, Dieu m'a appelé, tout ira tout seul. Tout ne va pas tout seul quand Dieu t'appelle. Tout ne va pas tout seul quand tu as une idée de créer une entreprise. Tout ne va pas tout seul quand tu as une idée de commencer quelque chose que personne n'a jamais commencé. Il va y avoir des temps de bataille et tu dois te développer une mentalité de guerrier. Parce que si tu n'as pas cette mentalité, même avec l'onction, tu seras enterré avant ton temps. La promesse de Dieu, les prophéties de Dieu, ce sont des prophéties que Dieu nous fait qui sont conditionnelles. Les prophéties qui sont inconditionnelles, c'était les prophéties qui annonçaient la naissance, la venue de Christ, sa mort et sa résurrection à la croix. Mais toutes les autres paroles de Dieu sont conditionnelles à notre obéissance, sont conditionnelles à notre capacité de garder la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le même conseil, l'apôtre Paul va le répéter à Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, quand tu as la promesse de Dieu, quand tu as une vision, tu as la responsabilité de veiller sur toi-même, de veiller et de travailler afin que cela arrive à son accomplissement. Quelqu'un dit amen. David arrive sur le champ de bataille. Et il semble que ce n'est pas une bataille pour lui. Mais sur ce champ de bataille-là, où c'est l'armée d'Israël est appelée à combattre, David va entendre quelque chose qui sera son premier champ de bataille. Le premier champ de bataille que chaque personne ici fera face lorsque tu as une vision, lorsque tu as l'appel de Dieu sur ta vie, lorsque tu as un talent particulier. Combien de personnes ici sont là, veulent partir une entreprise dans un domaine particulier? Combien de personnes en qui il y a des business qui se dorment, il y a des talents en qui que Dieu a mis dans leur cœur, mais qui ne verront jamais l'accomplissement à cause de la défaite qu'ils connaissent sur le premier champ de bataille. Le premier champ de bataille auquel David fait face s'appelle l'intimidation. Et beaucoup de gens sur le champ de bataille de l'intimidation vont perdre la bataille. Pas parce que Dieu n'a pas mis en eux la capacité de vaincre, mais simplement parce que au lieu de regarder à Dieu, ils regardent à eux et ils regardent aux circonstances. Goliath arrive et pendant 40 jours, la bataille qu'il va lancer contre Israël, ce n'est pas une bataille physique, mais c'est une bataille des mots afin de les intimider. J'aimerais parler ce soir à quelqu'un que lorsqu'il regarde son portefeuille, il est intimidé. Le Saint-Esprit m'expliquait ce matin. J'ai eu le message, le titre du message, mais je ne le comprenais pas. Et le Saint-Esprit m'expliquait ce matin en plein culte. C'est pour cela qu'à un moment donné, les gens m'ont vu sortir de la salle. Parce que je devais aller travailler ça. Que David est parti dans le ruisseau pour combattre Goliath. Combien de pierres il a pris? Combien de pierres? Il en a utilisé combien? Une. Donc il lui a resté quatre pour les prochains combats. Quand le Saint-Esprit m'a expliqué, mon cerveau a explosé là où j'étais. Il a pris 5. Je me suis toujours demandé pourquoi 5. Il en a pris 5 parce qu'il en avait 5 combats. Il a pris une pierre pour le combat présent, mais il était équipé pour les combats à venir. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. J'aimerais te dire que Dieu t'a déjà équipé pour les batailles de demain. J'aimerais te dire que Dieu t'a déjà équipé pour les batailles de demain. Si l'ennemi vient à minuit, tu es préparé. Si l'ennemi vient le matin, tu es préparé. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut m'aider? J'ai besoin de passer dans un mode un peu plus libre. Merci, pasteur. Je vais veuillez me suivre.
Merci.
Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour moi avec ça ici.
Merci, merci pasteur, un véritable serviteur.
Mon bien-aimé, David va dans les ruisseaux. David va prendre 5 pierres, mais on ne va jamais comprendre pourquoi il prend 5 pierres. Mais il prend 5 pierres, dont la première il va utiliser contre Goliath, mais prophétiquement, il est préparé pour les batailles de demain. La plupart d'entre nous voulons la bénédiction, mais nous ne sommes pas prêts à nous battre pour protéger la bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas prêts à nous battre pour protéger ce que Dieu a déposé en nous comme talent, comme potentiel. David arrive sur le champ de bataille. La première bataille qu'il fait, c'est la bataille de l'intimidation. Quand tu fais face à la bataille de l'intimidation, c'est souvent au début de ton ministère. C'est souvent au début, dans la jeunesse d'un projet. David va arriver au champ de bataille. Le premier qui l'intimide, c'est son frère. « Je connais ton cœur. » Non, Dieu connaît mon cœur. Dieu a vu que je suis un homme selon son cœur. Il a disposé les circonstances pour que j'arrive en ce lieu. La première intimidation... Les gens qui tuent vos rêves, les gens qui tuent vos visions, c'est souvent, ce n'est pas des étrangers, mais c'est juste des gens avec qui vous avez grandi, des gens avec qui vous avez été à l'école du dimanche, des gens avec qui vous avez joué, des gens avec qui vous êtes familiers, qui tuent votre vision et disent, est-ce que Dieu peut vraiment t'utiliser? Si Dieu peut utiliser une mâchoire d'âne, Dieu peut t'utiliser. Si Dieu peut utiliser le bâton de Moïse pour avaler les serpents de Pharaon, Dieu peut t'utiliser. Si Dieu peut utiliser une mâchoire d'âne, Dieu peut t'utiliser. Dis à quelqu'un, Dieu peut m'utiliser. Dis à quelqu'un, Dieu peut m'utiliser. La Bible dit que de la poussière, il relève le pauvre pour le faire asseoir avec les grands du pays. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Sur le champ de bataille de l'intimidation, les rois s'entrônent. S'ils ne font pas attention, ils sont victimes de l'intimidation. David, non seulement est intimidé par son frère, mais regardez quand le virus de l'intimidation est lancé contre David. La Bible dit que David se détourna de lui. Parce qu'il y a des moments où il ne faut pas être poli, il faut protéger le potentiel de Dieu en toi. Quand tu as une vision de Dieu en toi, tu es un trésor ambulant du ciel. Quand tu as une vision de Dieu en toi, tu portes la richesse du ciel. Car de ton sein, les richesses sortiront pour bénir des nations. Quelqu'un dit amen. Sur le champ de bataille de l'intimidation, le deuxième géant qui apparaît, ça va être Saül. Il se base sur la description physique de David et lui dit « Tu n'es qu'un enfant ». Or, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'appel et d'équipement. Savez-vous que
Moi, je peux me dire que je peux marcher d'ici à Toronto. Je veux peut-être y arriver, mais une 4x4 qui sort de l'usine, qui n'a que 2 minutes après sa construction, arrivera à Toronto beaucoup plus vite que moi. La question n'est pas l'âge que j'ai, mais c'est l'équipement que j'ai reçu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Tu dis que je suis jeune parce que tu n'as jamais vu là où j'ai été fabriqué. J'ai été fabriqué par les mains de l'Éternel des armées. Il était avec moi quand j'étais dans le sein de ma mère. Il a tissé mon corps. Il a tissé ma tête. Il a tissé mes pieds. Il m'a équipé. Il m'a rempli. Il m'a rempli. Il m'a préparé depuis l'éternité afin que je sois capable d'exercer. Ne laisse personne t'intimider. J'ai dit, ne laisse personne t'intimider. Ne laisse personne développer en toi les complexes. Sur le champ de bataille de l'intimidation, David va croiser la troisième attaque qui vient maintenant de Goliath. Première attaque vient de la famille. Deuxième attaque vient d'un leader d'expérience. Troisième attaque sur le champ de bataille de l'intimidation vient de l'ennemi. Car l'ennemi ne profite que des portes que les hommes ont laissées. Et la destinée de David se joue pendant ces quelques minutes-là. Mais Dieu l'avait déjà préparé depuis longtemps. Parce que quand les lions venaient, Dieu était en train de le préparer à vaincre l'intimidation. Quand l'ours venait, Dieu était en train de le préparer. Hier, je disais, certaines choses qui nous arrivent sont comme des injustices, mais ce sont des préparations de Dieu pour notre temps de gloire. Ce sont des préparations de Dieu pour notre temps d'élévation. Quand tu es écrasé, Dieu est te contrôle. Quand tu es insulté, Dieu est te contrôle. Quand tu es mis de côté injustement, Dieu est au contrôle. C'est parce que David avait injustement fait face au lion, fait face à l'ours qui n'avait pas besoin de l'opinion de son frère pour entrer dans sa destinée. Trop de personnes ratent leur destinée parce qu'ils attendent que tout le monde soit d'accord. David, premier champ de bataille s'appelle l'intimidation. Et plusieurs, ce soir, ont des rêves, mais les rêves mourront avec vous parce que vous vous laissez intimider. Deuxième champ de bataille. Deuxième champ de bataille. Le deuxième champ de bataille auquel David va faire face, ça va être la jalousie. David est un jeune que Dieu est en train d'élever. Et David avance, cet homme selon le cœur de Dieu, appelé à régner. L'homme qui était supposé être pour lui comme un père, Saül, va s'avérer être un homme qui est jaloux de lui. Parce qu'en réalité, les Saül de ta vie voient ce qu'il y a en toi avant que toi-même tu ne vois ce qu'il y a en toi. Ils sont heureux lorsque tu travailles pour construire leur ministère, leur règne, leur entreprise. Ils sont contents. Mais le jour où ils découvrent que tu peux aller plus loin qu'eux, ils vont tout faire et mettre en place un stratagème pour t'abattre. Et David sera victime de la jalousie d'un homme fini, d'un homme écrasé. Et David va être poursuivi pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'il faisait face au champ de bataille de la jalousie. Le deuxième champ de bataille des hommes selon le cœur de Dieu, c'est la jalousie. Et David, sur le champ de bataille de la jalousie, il a deux choix. Il peut se rebeller. Il peut tuer Saül. Mais David regarde et dit, si je le tue aujourd'hui, demain, on en fera de même pour moi. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui fait face à un patron jaloux. J'aimerais parler à quelqu'un qui fait face à une autorité spirituelle qui est jaloux. Sur le champ de bataille de la jalousie, ce qui compte, c'est simplement d'éviter le coup. On ne combat pas la personne qui est au-dessus de toi. Retire-toi, laisse Dieu régler les comptes pour toi. Bien-aimé, quand tu as la chose de Dieu en toi,
Tu es comme un ballon rempli d'hélium qu'on essaie d'enfoncer dans l'eau. Tu sortiras. Quiconque essaie de t'enfoncer se retrouvera en bas. Quiconque essaie de t'écraser se retrouvera en bas. Mais plusieurs personnes, quand tu fais face à la bataille de la jalousie, ce qui arrive, c'est que l'ennemi t'envoie au travers d'une personne des flèches afin que tu t'énerves et que tu commettes une erreur. Tu commettes une erreur contre l'autorité. Et quand tu commets ça, tu te mets soit sous une mesure divine ou simplement tu es écarté du plan de Dieu pour toi. Quand tu as la chose de Dieu en toi, quand tu as une vision, quand tu as un appel de Dieu sur toi, il est normal qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient jaloux de toi. Ça fait partie de la vie et ça te permet de rester humble. Mon frère, l'opposition dans la vie, l'opposition à laquelle tu fais face, permet de développer le potentiel et les choses que Dieu a développées en toi. Je viens d'une région où il y a du diamant. Je n'ai jamais vu le diamant sur la surface de la terre. Tout diamant doit être creusé. On doit cogner le sol. On doit cogner le sol. Le sol a mal, mais le diamant qui est en bas doit sortir. Je n'ai jamais vu une plante sortir sans se battre contre la terre afin de sortir. Mon bien-aimé, tu feras face à la jalousie, mais je veux te dire une chose. Si tu sais t'attacher à Dieu, Dieu te protégera des hommes jaloux. Dieu te protégera des hommes qui sont jaloux de ton talent, de ton potentiel. Dieu va te garder. Saül poursuivra David, mais la Bible dit que l'Éternel protéger David. Parce que David a compris que cet homme, il ne faut pas le combattre. L'erreur de beaucoup de gens, lorsque les gens sont jaloux d'eux, c'est de commencer à combattre. Il a fallu longtemps que Dieu commence à me l'expliquer. Tais-toi et laisse-moi faire. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On peut t'écarter aujourd'hui, mais Dieu saura te repositionner. Si on ferme les portes au nord, Dieu ouvrira les portes à l'est. Si on ferme les portes de la terre, Dieu ouvrira les portes du ciel. Si Dieu a mis en toi quelque chose, Dieu ne permettra pas que tu meures. Dieu ne permettra pas que tu coules. Face à la jalousie de Saül, David apprend à esquiver. Dis à quelqu'un, tu dois esquiver. Dis à quelqu'un, tu dois esquiver. Dis à quelqu'un, tu dois esquiver. Lorsque David arrive à l'étape de sa vie où il commence à accéder à la royauté, et ce soir, je vais très rapidement, David s'assied sur le trône et il va faire venir l'arche de Dieu. Et là, vous savez, il est devenu roi. Et tout va bien pour lui. Mais la Bible dit que David va faire entrer l'arche de Dieu à Jérusalem. Et pendant que l'arche est en train de rentrer, David a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il s'est mis à danser. Et puis dans son excitation, il a oublié qu'il était roi. Il a enlevé la veste, il a enlevé les habits. Quel message pour nous les hommes, si un roi peut danser? Pourquoi sommes-nous si sérieux dans la présence de Dieu? L'expression de la masculinité, c'était dans la vie de David, danser devant l'Éternel. Pendant que l'arche est en train d'entrer, la fille de Saül le regarde et elle le méprise. Elle dit, comment le roi d'Israël s'est-il dévêti devant ses serviteurs? Le troisième champ de bataille, c'est la bataille de l'authenticité. Restez moi. Combien de gens, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils changent soudainement leur accent. Ils sont devenus frais. Combien, quand lorsqu'ils arrivent quelque part, ils doivent s'adapter. Moi, j'ai dit non. Un jour, je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as donné ce style de prédication assez bizarre? Je prêche pas comme mon père qui va prêcher calmement. Je dois bondir, et Seigneur, j'ai l'impression que ça dérange les gens. Dieu me dira, ton public n'est pas encore prêt. Il va arriver. Je suis en train de le créer. Pour le moment, c'est bizarre, mais le public arrive bientôt. Est-ce que vous me comprenez? Reste toi.
David dit à la fille de Saül, c'est Dieu qui m'a donné ça. Et en reconnaissance à Dieu, je reste moi. Je reste. Quand j'étais dans les prairies, que personne ne me connaissait, j'étais un adorateur. Tu n'étais pas là. Maintenant que je suis arrivé sur le trône, est-ce que parce que Dieu m'a béni, je ne veux pas louer Dieu? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une Bentley. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une Rolex. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une limousine. Je reste le même. Je reste le même adorateur. Et plusieurs ont perdu la bataille de l'authenticité. Quand Dieu a commencé à les élever, ils sont devenus trop importants pour les autres. Quand Dieu a commencé à les élever, ils n'ont plus le temps pour la maison de Dieu. Ils n'ont plus le temps pour les relations avec les autres. Bien-aimé, ce n'est pas l'attitude, l'apparence que tu montres à l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a en toi qui marque la différence. On peut marcher dans la rue, tout le monde marche, mais s'il y a un accident, c'est l'accident qui révèle le médecin. C'est l'accident qui révèle qui est mécanicien. C'est l'accident qui révèle qui est ambulancier. C'est le problème qui révèle l'homme et non l'homme qui révèle le problème. Jésus arrive au puits de Jacob. Il est assis et cette femme sort du village. Elle vient pour apporter, chercher de l'eau. Et la femme, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. La femme dit, mais comment toi qui es juif, tu peux me demander de l'eau à moi qui suis samaritaine? Jésus ne s'est jamais énervé. Mais au courant de la conversation, la révélation commence à arriver parce qu'il y a le problème qui révèle l'homme. Et soudain coup, elle dit, tu es un prophète. Oui, tu es un prophète. Et tout à coup, à la fin de la conversation, elle dit, tu es le Messie. Le problème révèle toujours l'homme. Le problème a révélé David. Les circonstances ont révélé l'adorateur en lui. Peux-tu rester le même quand Dieu commence à t'élever? Chacun d'entre nous, à un moment donné, fera face à la bataille de l'authenticité. Peux-tu prêcher de la même manière devant 50 personnes, devant 20 personnes, comme tu prêcherais devant 10 000 personnes? Es-tu plus loin lorsqu'il y a 10 000 personnes ou tu restes le même? La Bible dit que Jésus-Christ est le même. Lorsqu'il y a 20 personnes, il est le même. Lorsqu'il y a 100 personnes, il est le même. Lorsqu'il y a 10 000 personnes, il est le même. J'aimerais dire à quelqu'un, reste toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, reste toi-même. Dis à ton voisin, reste toi-même. Mon frère, Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a choisi. Il connaissait ta taille. Il connaissait comment tu parles. Il connaissait comment tu marches. Et je vois des gens, dès qu'ils ont l'onction, alléluia, alléluia. Mon frère, j'ai appris que l'onction de Dieu est sur moi. Même quand je joue au foot, l'onction est là. Parfois, je suis avec des collègues. On se retrouve, mais parlons normalement. Oh, shut up. Just tell me how you're doing. Juste sois normal. Et la plupart, vous m'avez vu lorsque je suis venu ici, la plupart des paroles de connaissance, je les donne même après la réunion. C'est parfois souvent quand je salue quelqu'un, la parole me vient à ce moment-là. Parce que l'onction de Dieu est sur moi de façon permanente. Quand je dors, l'onction est là. Quand je me lave, l'onction est là. Je n'ai pas besoin de commencer à m'agiter. Ça, c'est parce que tu n'as pas de vie intime avec Dieu. Mais quand tu as une vie intime avec Dieu, tu sais que l'onction, c'est comme un parfum que tu as mis sur toi depuis le matin. Quand tu vas au gym, tu sens bon. Quand tu sors du gym, tu sens bon. Parce que tu as été en contact avec une source différente. La bataille de l'authenticité. Dieu nous bénirait plus si on resterait nous-mêmes. Dieu nous bénirait plus si on resterait nous-mêmes. Parce que Dieu nous connaît. David a dit, tu sais de quoi je suis fait. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dis à quelqu'un, reste toi-même. Dis à quelqu'un, reste toi-même. La quatrième bataille. Quatrième champ de bataille. Quatrième champ de bataille, lorsque David arrive sur le trône. C'est la bataille de la convoitise. Parce que là, maintenant, tout va bien. Notre problème, c'est quand tout va bien. Il est assis sur le trône
et ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus de bataille. Il a réussi, le trône est établi. Et soudainement, un jour, il décide d'aller faire un tour sur le toit. Et puis, il voit Bathsheba qui est en train de se laver et il a une révélation. Il dit, mais pourquoi pas? Et il demande aux gens qui sont avec lui, c'est la femme de qui? Et puis, est-ce que vous me permettez de parler entre guillemets? Les idiots répondent, c'est la femme d'Uri. Normalement, la phrase aurait été quoi? C'est la femme d'Uri, ne la touche pas. Parce que quand il posait la question, il avait déjà une idée. Voyez-vous, chaque homme dans cette salle se bat avec son Bathsheba. Ton Bathsheba, c'est peut-être pas le sexe. Ton Bathsheba, c'est peut-être l'argent. C'est quoi ta convoitise? C'est quoi le péché avec lequel tu luttes? Nous luttons tous avec un péché. Tous. Tous. Ouais. Mais bon, je lutte avec mon péché. Je lutte. Je ne suis pas tombé dedans, mais je lutte avec. Silencieusement, peut-être. Parce que si je le dirais ouvertement, peut-être que j'aurais plus de ministère. Mais, ouais. Mais, je suis obligé de présenter la version officielle de moi. Officiellement, je ne lutte avec rien. Mais officieusement, je lutte avec Bathsheba. Je lutte avec l'amour de l'argent. Avec quoi tu luttes? Voyez-vous, le problème, lorsque j'arrive sur le trône, c'est que tout devient accessible. Les femmes auxquelles je n'avais pas accès, qui ne me regarderaient pas autrefois, soudainement me trouvent cute. Oh, j'aime le pasteur Omer, quand il prêche, comment il bouge son pied, vraiment, c'est mignon. Je n'ai jamais vu un pied qui bouge comme ça. Et toi, tu dis, oh Seigneur, je suis merveilleux. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à mépriser celle qui est avec toi depuis le commencement, parce qu'on trouve ton petit pied cute. Et puis là, tu chantes. Et puis, oh, hallelujah, le Saint-Esprit est là. Parce que quelque part, tu as entendu que non, quand il bouge son pied, vraiment, ça me rappelle vraiment l'onction de Dieu est là. L'onction n'est pas là quand tu bouges ton pied. Arrête donc de faire semblant. Comment s'appelle le Bathsheba de ta vie avec lequel tu luttes et qui risque d'engloutir tout ce que Dieu a préparé pour toi? Cette question s'adresse beaucoup plus aux hommes ce soir. Certains luttent avec le Bathsheba appelé pornographie. Ils ne peuvent pas se passer. Ils sont musiciens dans l'église, mais ils luttent secrètement. Bathsheba représente une lutte secrète dans le corps, le cœur de l'homme. David, en ce moment-là, il est roi, il est prophète. Il est homme politique, chef d'entreprise, chef de gouvernement. Donc, il représente la typologie parfaite d'un homme d'aujourd'hui. Avec quoi tu luttes silencieusement, sans dire à personne? Lorsque David luttait avec la convoitise de Bathsheba, il y avait des ministres autour de lui, il y avait des gens, il y avait le prophète Nathan autour de lui, mais il va lutter tout seul avec son péché jusqu'à aller tomber dedans. Comment s'appelle le péché avec lequel tu luttes silencieusement? Dis à quelqu'un, il y a Bathsheba autour de toi. Dis à quelqu'un, il y a Bathsheba autour de toi. Dis à quelqu'un, il y a Bathsheba autour de toi. Comment s'appelle le péché avec lequel tu luttes? Certains, c'est juste l'amour de l'argent, l'amour de la gloire. Oh, le pasteur Omer, quand il marche, tu es l'homme de Dieu. Ça nourrit quelque chose en toi qui semble bon en apparence, mais c'est un poison qui te tue tranquillement. Au point où quand tu arrives, même ton épouse essaie de te dire, je pense chérie, tu as mal parlé, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Est-ce que toi tu as l'onction? Est-ce que tu connais Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Josué, Juge, Josué, Ruth, un roi, un Samuel, le Samuel? Est-ce que tu connais le déclinaison grecque? Est-ce que tu connais les déclinaisons hébraïques? Est-ce que tu connais Retomokamate, Bosimberia Kamaya Honda? Est-ce que tu peux prophétiser? Non, chérie, je ne peux peut-être pas prophétiser, mais je sais discerner et je vois que là, tu es en danger. Qu'est-ce que tu fais seul à l'ordinateur à 2h du matin? Tu n'es pas en train de checker tes emails. Qu'est-ce que tu fais avec tant d'amis Facebook? Tu... Voyez-vous, chacun d'entre nous est en train de lutter. Certains luttent avec le Bathsheba de l'homosexualité, mais ils sont en train de mourir à petit feu. Avec quoi tu luttes et qui met en danger le trône que Dieu t'a donné? Avec quoi tu luttes?
David, assis sur le trône, le roi sans trône d'hier a le trône aujourd'hui. Mais le trône est en danger à cause d'une convoitise dans son cœur. Puisse Dieu nous sevrer de ces convoitises-là. Puisses-tu aller rencontrer un autre homme, un leader, et juste lui ouvrir ton cœur et qu'on puisse t'aider avant que Bathsheba ne mette en danger le trône.
La version officielle, c'est que David n'a pas de problème. Chacun d'entre nous a une version officielle. Chacun d'entre nous. La version officielle, c'est qu'il n'a pas de problème. Mais la version véritable, c'est qu'il a beaucoup de problèmes intérieurs. Le roi sans trône est en train de lutter avec un péché en secret. Et ce péché-là est en train de détruire sa vie, est en train de le ronger. Il est assis sur le trône, mais il ne sait pas que l'ennemi a déjà frayé une brèche. Cinquième champ de bataille pour terminer. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Je vais entendre les hommes, est-ce que vous êtes bénis? Ce que David va faire avec Bathsheba, ça va tellement causer des fracas dans l'appel de Dieu pour lui, qu'il va connaître le dernier champ de bataille que j'aimerais vous citer. C'est le champ de bataille de la trahison. Frère, il ne faut pas être naïf. Quand vous avez une vision de Dieu, quand vous avez l'appel de Dieu, quand vous avez quelque chose de Dieu, une vision, une direction que vous voulez suivre, il y aura toujours quelqu'un qui va vous trahir. Tous ceux qui s'approchent de vous aujourd'hui en vous acclamant, ce n'est pas des gens qui vont rester avec vous à vie. Moi, j'aime bien les gens qui disent, oui, il est venu dans mon église, il est membre à vie. Qui t'a dit qu'il est membre à vie? Il est là pour le temps que Dieu permet qu'il soit là. Mais tôt ou tard, tu connaîtras la trahison. Et David connaîtra la trahison de son propre fils Absalom, qui va se soulever contre lui et qui va briser le cœur de David. J'aimerais prévenir des hommes qui sont en ces lieux, qui ont eu un appel de Dieu, qui ont une vision, qui travaillent dans un domaine et tu es en train d'inventer des choses et d'ouvrir ton cœur à tout le monde. J'aimerais te dire que si tu ne fais pas attention, tu seras trahi à un moment donné. Il y a une zone dans laquelle il ne faut pas faire rentrer les gens. Il y a des choses qu'il faut seulement laisser les hommes découvrir. Parce que si tu ouvres ta bouche trop, à un moment donné, tu seras trahi. Comment ça se fait qu'Absalom, pendant 3 ans, quand les gens venaient voir David, Absalom les arrêtait à la porte? David savait qu'Absalom le faisait. Il était bien renseigné. Mais David disait, oh, c'est juste un petit. Oh, il a juste dit un demi-mensonge aujourd'hui. Le lendemain, il a dit un demi-mensonge. Frère, demi-mensonge, puis demi-mensonge, fait mensonge entier. Et comme on nous prêchait ce matin, il n'y a pas de demi-vérité. Il y a des mensonges et il y a des vérités. Bien-aimé, quand tu as quelque chose de Dieu en toi, sache que la trahison ne viendra pas des gens de l'extérieur. La trahison viendra des gens qui sont proches, assis avec toi, avec lesquels tu ris. Et il faut que ton cœur soit préparé à fonctionner sans ces gens-là. Il faut que ton cœur soit aguerri. Sinon, tu risques de mourir avant ton temps. David n'est tellement pas préparé à la trahison d'Absalom que le roi sans trône se retrouve de nouveau le roi sans trône. Parce qu'il n'est pas préparé à la trahison. 5 champs de bataille. Dans quel champ de bataille tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est le champ de bataille de l'intimidation? Est-ce que c'est le champ de bataille de la jalousie? Est-ce que c'est le champ de bataille de l'authenticité où Dieu m'élève, mais je dois rester humble? Je dois rester moi. Car être humble, c'est juste être moi. Maintenant, être moi, ça peut sembler être de l'orgueil pour toi. Mais moi, je ne suis pas toi. Je marche dans une certaine... Est-ce que vous me comprenez? Troisièmement, quatrièmement, le champ de bataille de la convoitise. Il y a un domaine de ta vie dans lequel tu luttes avec le péché.
Tu luttes avec un péché. Puis c'est le seul péché, hein. On enlèverait ce péché-là, tu serais un ange. Mais c'est le seul péché avec lequel tu luttes. La famille d'Abraham luttait avec le péché du mensonge. C'était le seul péché avec lequel il luttait. La famille de David luttera avec le péché du sexe. C'est le seul péché avec lequel il lutte. Ils sont loin dans la lignée royale. Mais il y a un péché. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et finalement, le péché de la trahison. Tu auras des gens autour de toi. Sache ce que tu dois dire et sache ce que tu ne dois pas dire. Parfois, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Il faut regarder ce qu'ils font, car ce qu'ils font révèle qui ils sont en réalité. Il ne faut pas seulement être là parce qu'on a dit « je suis un homme de Dieu », mais il faut regarder ce qu'ils font en réalité. Est-ce qu'on peut se lever un moment ce soir? J'aimerais juste prier pour vous, céder la parole au révérend Jean-Marc, et puis nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Est-ce que les hommes peuvent juste lever les mains un moment? Juste les hommes, si nous pouvons lever les mains devant Dieu. Ce soir, le Seigneur a voulu nous parler. Nous sommes venus de différentes églises. Plusieurs devraient être là ce soir, mais ne sont pas là. Mais Dieu a choisi de nous parler comme des échantillons. Quel est le champ de bataille avec lequel tu luttes ce soir? J'aimerais inviter l'homme de Dieu à venir ici devant et juste faire un mot de prière pour ce moment et vraiment recommander les hommes entre les mains de Dieu. Avec quelle est la convoitise que si tout le monde saurait, pourrait détruire tout ce que tu as bâti?
Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons fermer les yeux. Tandis que les hommes sont debout en signe d'autorité. En signe d'autorité. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur,